Bonjour. La dernière fois, nous avions donc regardé la bibliographie principale, les sources principales concernant la conquête islamique de l'Asie centrale et fait un tableau rapide des conditions politiques et sociales de la région. Maintenant, nous allons donc examiner plus en détail la chronologie de la conquête, présenter ça sous forme de trois tableaux successifs, parce que bon, c'est un enchaînement de faits extrêmement complexe, et surtout, il y a eu tout le temps pendant un siècle et demi, ça a été une succession presque ininterrompue d'avances, de reculs. Mais on arrive quand même à démêler une certaine logique, disons une certaine périodisation. Les conditions de la conquête changent petit à petit. Et d'une conquête précaire, temporaire, on finit par aboutir à une entreprise systématique. Alors je m'excuse, les cartes qui accompagnent sortent en fait trop petits et trop flous. Je les avais passées en plus grand format lors de mon premier cours. Elles sont extraites de l'atlas de Yuri Bregel. Bon, je les remontrerai en grand format plus tard. La conquête de l'Asie centrale commence au moment où s'arrête la conquête de l'Iran. La conquête de l'Iran est achevée en 652, très exactement ici à Merv, la grande capitale qui avait été vraiment la grande capitale de l'Est, le grand point militaire face à l'Asie centrale. En 652, les Arabes l'atteignent et c'est à Merv que meurt assassiné le dernier roi sassanide, Yazdir III. Donc c'est vraiment à Merv en 650-652 que se fait la passation complète du pouvoir entre l'Iran sassanide et les conquérants arabes. On est à l'époque du califat de Ali. L'Asie centrale va venir dans des étapes ultérieures. Donc 652, conquête de Merv, et 671, c'est vraiment le califat se donne les moyens de conquête plus amples en établissant le poste de gouverneur général du Khorasan. Le Khorasan, c'est donc la province, comme ça l'est aujourd'hui, sous le même nom, c'est la province la plus nord-orientale de l'Iran, et le gouverneur du Khorasan aura sous son autorité toutes les conquêtes qui seront ultérieurement faites plus à l'est. Les conquêtes faites plus au sud, au Seistan, enfin dans l'Afghanistan du Sud, etc., relèveront parfois d'autres gouverneurs, parfois non. En 671 est établie une véritable base de colonisation avec 50 000 guerriers arabes qui viennent des deux grandes bases militaires du bas Irak, Basra et Koufa, qui ont précédé Bagdad. Et ces 50 000 guerriers, plus leurs familles. On a douté de ces chiffres étant donné leur ampleur, mais il a été récemment démontré qu'en fait, ils étaient crédibles. Et que donc, la population de l'oasis de Merv se trouve dans les faits doublée par l'arrivée de cette population arabe. Et évidemment, c'est extrêmement important pour la suite. C'est un réservoir d'hommes qui ne cessera pas d'être alimenté. Alors, la première époque, que j'appelle le temps des raids, qui dure une trentaine d'années, ce n'est pas une conquête systématique, visiblement. Ce sont des expéditions. Alors, au début, très très tôt, dès avant l'établissement de la base de Merv, dès 654, on a ce que j'appelle des raids exploratoires. Ils vont très loin, très tôt. Dès Bactre, 654, tout près de Samarcande, à la même année, Et la même année aussi, le Khorezme, donc l'extrémité la plus au nord. Alors, ce sont... Oui, on a peu de détails sur ces raids. Visiblement, les Arabes ont profité de l'effet de surprise. En fait, personne ne s'attendait à les voir arriver. Et donc, ils ont immédiatement profité de leur mobilité, ils ont avancé très vite, mais ils ne sont absolument pas restés. C'est même pas sûr qu'ils aient mis ces villes à la rançon. Il se peut très bien qu'ils aient simplement capturé du bétail. En fait, peut-être des esclaves, on a très peu de détails. Alors, à partir de 673, donc de l'établissement de la base de Merv, on a des raids plus sérieux que j'appelle des raids de rançonnage ou d'occupation temporaire. Là, véritablement, les Arabes négocient des armistices, ils obtiennent du tribut, des esclaves. Parfois, ils restent, puis finalement, ils partent. Alors, dès 673, on a un raid semblable à Boukhara. 676 ou 81 à Samarcande et au Khorezm. Il y a une incertitude sur la date de la première conquête de Samarcande. Les sources sont confuses. Il semblerait que 681 est la date la plus crédible parce que 35 ans plus tard, le roi de Samarcande va écrire à l'empereur de Chine en lui disant « Ça fait 35 ans que je me bats contre les Arabes ». Donc, on enlève 35 ans et effectivement, c'est la date de 681 qui paraît devoir s'imposer. Un épisode curieux, à partir de 690, un rebelle qui s'appelle Moussa établit en fait une espèce de principauté arabe indépendante à Termez, c'est-à-dire juste au nord de la Moudaria, sur le territoire actuel de l'Ouzbékistan. Il va falloir 25 ans pour le déloger de là. Donc, vous voyez, c'est une conquête qui, dans cette phase ancienne, n'est pas forcément une conquête très contrôlée. Alors, le contexte général qui explique ces progrès quand même rapides et considérables dans un monde qui était tout de même prospère, qui avait des capacités défensives, c'est que j'ai été amené à en parler, je serai amené à en reparler, depuis longtemps... les principautés, les royaumes d'Asie centrale avaient sous-traité leur défense globale aux puissances de la steppe. C'est une très vieille habitude en Asie centrale et ça continuera longtemps. Et la puissance de la steppe qui avait été tutélaire jusqu'en 660-670, c'était l'empire des Turcs occidentaux. Or, précisément dans ces années-là, les Turcs occidentaux sont inopérants politiquement. Leur empire a été démantelé suite aux interventions de la Chine. Et la Chine elle-même, qui est supposée prendre le relais, ne peut pas prendre le relais parce que ces années correspondent à ce qu'on a appelé le premier empire tibétain. C'est la première. Il y a eu deux phases successives d'expansion tibétaine, fin du 7e siècle, et puis un siècle après, à nouveau. Et là, donc, les Chinois sont temporairement délogés de leur garnison dans le Xinjiang et n'ont pas la possibilité vraiment de faire la jonction avec l'Asie centrale. Alors, de temps en temps, dans ces années-là, on a des tentatives téléguidées, enfin, disons, cautionnées par les Chinois avec l'utilisation de certaines troupes turques pour essayer de ramener des prétendants sassanides qui se sont réfugiés en Chine. Les tout derniers de la famille finiront par mourir en Chine. Les derniers qu'on suit, c'est en 810, et d'ailleurs, ils sont devenus chrétiens. Probablement ont-ils considéré qu'au bout d'un siècle et demi, ils pouvaient tirer un trait sur leurs dieux ancestraux qui ne les avaient pas aidés. On a Péroz, le fils du dernier roi, en 657, puis 663-70. Alors, bon, on ne sait pas très bien où est-ce que ces gens arrivent à s'établir de manière précaire, probablement en Bactriane, sur les marges. Puis il y en a un autre en 679 qui s'appelle Narsé. Je serais amené à en reparler parce que ces prétendants ont eu une certaine crédibilité, au moins à Samarcande. On a des indices que on comptait sur eux. Voilà, c'est encore, on attend encore quelque chose de ce côté-là. En tout cas, en 683, cette première phase de conquête qui paraissait sur le point de se consolider est interrompue par ce qu'on a appelé la deuxième guerre civile du califat. La première guerre civile, c'est à la mort de Ali, avec l'arrivée au pouvoir des Omayyades, vers 653, je crois. Et la deuxième guerre civile, c'est 683, c'est la guerre civile entre les Omayyades et les descendants de Ali, qui vont donner ce qui va donner le chiisme. Mais on peut pas, c'est un peu anachronique pour ces époques de, cette époque de parler du chiisme. Bon, c'est ce qui reste aujourd'hui dans, inscrit dans la mémoire historique entre sunnites et chiites, la bataille de Kerbala, la mort de l'imam Hossein, etc. Et ça commence en 683 et ça va durer en fait pendant 20 ans. Les forces du califat vont être largement employées. Et puis alors, il y a d'autres rebelles qu'on appelle les Kharijites qui, eux, considèrent que le califat doit, ne doit pas être héréditaire. Alors, les Omayyades ont fort à faire avec ces rébellions et la conquête de l'Asie centrale se trouve de fait stoppée. On n'évacue pas Merv. On a la Bactriane occidentale, mais pas Bactre, se trouve encore plus ou moins bien occupée, mais on ne va pas plus loin. Bien. Alors, à partir de... Les choses changent. À partir de 699, là, on a vraiment une phase... bref, une quinzaine d'années, qui est une entreprise de conquête systématique. Alors, l'arrière-plan général, justement, dans ces années, en fait, curieusement, les Arabes deviennent plus efficaces, mais en même temps, face à eux, ils ont un vrai adversaire. Les Turcs sont revenus en force, avec la confédération des Turgesh, l'empire éphémère des Turcs orientaux qui arrive de Mongolie et qui tente sa chance en 712. Les Chinois, eux, ne se montrent toujours pas. Enfin, ils vont jusqu'au Pamir, ils interviennent un peu dans les affaires, du Haut Himalaya, du Haut Hindu, de ces régions, Gilgit, etc. Ils interviennent au Tibet, mais ils ne sont pas en état d'arriver en Asie centrale. Alors, cette conquête, c'est 15 années de conquête, enfin plutôt, disons 10, puisqu'il a commencé, il arrive sur la scène en 705, sont associées à un... Il y a un nom qui est associé, il y a un conquérant, un gouverneur du Khorasan qui est Qutaiba ibn Muslim. Alors, je vous avais dit que chaque fois que je pouvais, je vous montrais des portraits contemporains. Ben, il se trouve qu'on a très probablement le portrait de Qutaiba. Je serai amené à en reparler. C'est des peintures qui ont été exécutées 10 ans plus tard au palais du roi de Penjikent, lequel, dans ses peintures, a fait raconter les événements qui avaient amené à sa propre proclamation comme roi de Samarcande, et puis ça a été très éphémère, presque immédiatement il a été défait par les Arabes, et je vous montrerai d'autres images, on voit le siège de Samarcande, tel qu'il nous est décrit dans les sources, c'est exactement comme ça qu'il est décrit, et on a un personnage qui n'est pas un Sogdien, qui est un Arabe, il n'a pas un turban, il a un kéfié, enroulé autour de la tête. Et à la main, on pourrait croire qu'il tient un sceptre, mais apparemment, ce serait une épée avec une attache à l'épaule. Moi, je dois dire que je ne vois pas grand-chose sur la photo, mais enfin, c'est comme ça que les fouilles que c'est interprété. Et c'est la manière dont les cavaliers arabes portaient l'épée. Ce n'est pas à la taille, mais à l'épaule. Donc, c'est vraisemblablement Qutaiba. Alors, Qutaiba a plusieurs atouts, donc visiblement il a un grand génie militaire et politique, aucune espèce de scrupule, d'aucune sorte, enfin, de toute façon, ne perdons pas notre temps. Dans les acteurs politiques de cette époque, espérer voir briller quelque part une étincelle d'humanité, c'est une entreprise totalement inimaginable. Bon. Mais alors lui, il est particulièrement dur, mais il est efficace. Et il est suivi par ses hommes à qui en gros il dit « Vous êtes des Bédouins, vous êtes des moins que rien, vous n'en possédez rien, je vais faire de vous des riches. » Parce qu'il sait que l'Asie centrale est riche. Et alors, il a un autre atout, c'est que les gouverneurs qui l'ont précédé ont été handicapés chroniquement par les guerres entre grandes confédérations arabes. Parce que ces grandes confédérations, en gros, pour résumer, c'est les Arabes du Nord, les Moudarites, et les Arabes du Sud, les Yéménites. Il y a toutes sortes d'autres noms. Ces grandes confédérations coexistent à merve, continuent leur vendetta interminable et parfois déploient beaucoup plus d'énergie à se battre entre eux que dans l'entreprise commune. Mais lui, Koutaïba, il vient d'une petite tribu, les Bahili, qui n'est pas affilié aux grandes confédérations. Donc, il n'est pas pris dans les jeux de vengeance entre les grands blocs. Et ce qui lui donne beaucoup plus d'autonomie. On pense tout de suite à un grand chef qui a su fédérer les tribus arabes, c'est évidemment le colonel Lawrence, pour exactement les mêmes raisons. On voit très bien ça dans le film. Quand il y a des vengeances entre tribus, peut arbitrer et abattre le guerrier délinquant, etc. Parce qu'il dit moi, j'ai pas de grosse tribu derrière moi, ça ne va pas enclencher le processus de vendetta. Voilà, je peux faire ce que je veux. Et il est arrivé à Koutaïba. Ce qui arrivera plus tard à Lawrence, contrepartie de cet atout, c'est que le jour où il va perdre l'appui de ses protecteurs, il n'aura personne, il va se retrouver seul. Il n'aura personne pour venir à son aide. Alors, les étapes de cette conquête, 705, c'est Bactre, la grande ville du Turkestan, Bactriane, grand site bouddhique, qui avait auparavant été prise, reprise. Mais là, elle est vraiment prise en 705. Complètement. 709, c'est la conquête de Boukhara, vraiment la conquête de Boukhara, plus des raids temporaires. 712, la même année, le Khorezm et Samarcande. Un magnifique tableau de chasse en une seule année. Koutaïba en était très fier dans sa lettre au calife. Il expliquait que ce qu'il a porté sur un plateau, c'était pas des petites capitulations temporaires, c'était deux gros royaumes. Et déjà, donc, des raids, Tchatch, c'est-à-dire Tashkent, le Fergana, à l'extrémité donc, de l'Ouzbékistan d'aujourd'hui. Et on dit même que, alors, ce qu'on nous raconte, c'est que Koutaïba, finalement, est tué en 712 lors d'une révolte. Il a été démis par le nouveau calife. Il avait choisi le mauvais cheval. Il avait choisi un candidat au califat qui n'est pas celui qui a pris le pouvoir. Donc il est démis. Il finit par être assassiné par ses hommes. Et on dit c'était au moment où il allait préparer une expédition contre la Chine. Alors quand on lit la Chine dans les historiens arabes de cette époque, ça veut très souvent dire, ça veut dire en fait les frontières extrêmes de la Chine. C'est-à-dire ça veut dire Kashgar, probablement. Il devait préparer, il était au Fergana, il devait préparer quelque chose contre Kashgar, il n'avait évidemment pas prévu de se retrouver au cœur de la Chine. Alors, ensuite, bon, Koutaïba donc meurt en 715, et les Arabes affrontent 35 années vraiment difficiles. À certains moments, c'est la difficile période de la fin des Omayyades. La conquête, visiblement, temporairement, a épuisé son potentiel. Ce n'est pas par hasard que, dans ces années-là, il y a la bataille de Poitiers, qui est aussi une avancée extrême, mais finalement un échec. Hein ? On a là le contexte, c'est une alliance fréquente entre principautés sogdiennes et turques. De nouveau, il y a des appels au secours aux Chinois. Finalement, les Chinois vont venir. Ils vont venir en 751, avec d'ailleurs leurs armées chinoises seront commandées par un général coréen. C'est la bataille dite du Talas, qui donc dans le sud du Kazakhstan actuel. Alors, dans les chroniques chinoises, c'est une victoire chinoise. Dans les chroniques arabes, c'est une victoire arabe. En fait, c'est une victoire pour personne. Mais les Chinois ne reviendront plus. En 721, les nobles sogdiens, les Sogdiens s'embrasent de manière très générale. C'est dû à des mesures extrêmement maladroites de la part des gouverneurs. En gros, ce qui s'était passé, c'est que un calife particulièrement pieux, Omar II, avait décidé d'exempter de l'impôt de la jizya, qui est l'impôt payé par les infidèles, les nouveaux convertis. Et puis à ce moment-là, les petits souverains locaux d'Asie centrale, de Sogdiane, écrivent au calife en disant bah, « c'est bien gentil, mais c'est nous qui sommes responsables de la collecte de l'impôt » auprès des gouverneurs arabes. Et si on dispense de l'impôt tous ceux qui se convertissent, on sait très bien ce qui va se passer. Ils vont tous dire qu'ils sont musulmans, ils ne vont plus payer un sou. Et donc, la mesure a été rapportée. Alors, évidemment, quand on revient en arrière sur des exemptions fiscales, ça ne plaît jamais dans aucune culture, dans aucune époque. Alors là... On a eu un grand embrasement. En 722, alors je cite ces dates qui n'ont pas l'air de vouloir de dire grand-chose, mais c'est des épisodes sur lesquels je vais être amené à revenir. Il y a une contre-offensive. Le roi de Pejikent, qui avait cru venir son heure et s'était proclamé roi de Sogdiane, finit par être capturé et tué. La chute de Pejikent, 722, c'est une grande date pour nous, puisque, comme vous savez, j'en ai parlé à moult reprises, Pejikent est le mieux connu de tous les sites. Bien. Alors, en 731, un épisode particulièrement traumatique, la bataille du défilé. Je raconterai ça un peu plus en détail. Là, les Arabes se sont fait complètement massacrer. Samarcande est pratiquement perdu. Finalement, 735-739, Samarcande est évacué, carrément. Tout à fait à la fin des Omayyades, petit à petit, la Sogdiane et la Bactriane sont reconquises et, la domination est consolidée sous un gouverneur particulièrement, disons, qui est un véritable homme d'État, qui est Nasr ben Sayyar, qui, lui, contrairement à ses prédécesseurs, a une politique d'entente avec la noblesse locale. Une politique très intelligente, très bien calculée. Donc, à ce moment-là, à nouveau, une dilatation de l'expansion, des raids, le Tchatch, l'Oustrouchana, Fergana, etc. Et puis, 748-750, l'arrivée au pouvoir des Abbassides, une révolution qui part de Merve, de l'assise militaire principale de la puissance arabe en Asie centrale, une révolution à laquelle vont participer, mais pas de manière apparemment vraiment majoritaire, enfin, disons décisive, des éléments centra-asiatiques. Bon, il y a un certain nombre de nouveaux convertis dans la révolution, beaucoup même, dans la révolution abbasside. Cette révolution, la domination musulmane n'est pas remise en cause en Asie centrale, ce qui montre qu'elle était déjà en train de se consolider. La dernière étape, assez longue, c'est la reprise, après ces épisodes difficiles, la reprise des conquêtes. Au début de la période abbasside. Alors, voilà, juste au moment après la révolution abbasside, C'est la première fois que véritablement Tachkent est conquise. Otrar, actuellement au Kazakhstan, une grande ville sur la Amoudaria, conquise aussi. Donc là, vous voyez les frontières qui se dessinent sur cette carte que vous arrivez à voir sur l'écran s'affirme. Alors, c'est là qu'on voit... Il y a de nouvelles formes de rébellion qui apparaissent. Mais justement, ce ne sont plus des rébellions véritablement à composantes totalement locales. Ce sont déjà des révoltes religieuses syncrétiques. Ça annonce déjà des choses qu'on va trouver à proprement parler dans les sociétés islamiques, notamment les mouvements chiites extrémistes, les ismaéliens, etc. On voit déjà qu'on a basculé dans une autre culture. Plus grand monde ne veut le retour à l'ancien état des choses, qui est probablement en train d'être oublié. Ce sont des remises en cause qui intègrent des éléments de la culture islamique. Alors, notamment, il y a beaucoup de révoltes au début à cette époque, mais surtout la plus connue, c'est la révolte de Mukanna, qui a eu une certaine gloire littéraire chez nous, puisqu'on a la nouvelle de Borges dans Histoire universelle de l'infamie, le prophète masqué du Khorasan. Il a donné lieu à... depuis le XVIIIe siècle, il a beaucoup intéressé les écrivains. Je serais amené à en parler, c'est un personnage assez fascinant. Il était voilé. Alors, la version qui répandait, c'est qu'il dégageait une telle lumière que ses fidèles auraient été aveuglés s'ils avaient contemplé son visage. La version, évidemment, des musulmans, c'est qu'il avait un visage difforme et qu'il le cachait. Bon. Il a une forte assise montagneuse. Enfin, son pouvoir s'étend au sud de Samarcande, à Samarcande même. Il avait un château imprenable qui finalement a été pris et que depuis quelques années, Youri Kariev et moi cherchons, n'avons pas encore trouvé, mais j'espère quand même qu'une de ces prochaines années, nous serons en état de vous annoncer la découverte. À cette époque, c'est vraiment le champ du cygne, par exemple, on a encore des souverains locaux qui subsistent sous contrôle musulman et qui désespérément essaient encore de faire venir des Turcs, mais ça ne marche pas. Et en fait la véritable venue des Turcs, eh bien, ce sera deux siècles plus tard, quand ils arriveront sous forme de Turcs musulmans et qui prendront le pouvoir à partir de l'an 1000 avec les nouvelles dynasties, les Karakhanides, les Seldjoukides, etc. C'est également à ce moment que le roi de Boukhara, qui était resté un personnage très puissant, comme le prouvent les fouilles de son palais dont je vais être amené à parler, perd son indépendance nominale. Alors finalement, c'est à ce moment que ses possessions extrêmes s'islamisent. Et puis là, l'islam n'ira pas plus loin. Jusqu'au XIe siècle, on a vraiment une stabilisation du front oriental. La dernière principauté qui tombe, c'est l'Oustrouchana, auquel un colloque a été consacré ici en mai de l'année dernière. Et on voit émerger un phénomène nouveau. Ce sont des dynasties, certes iraniennes, certes locales, mais musulmanes, et parfois musulmanes très zélées. Les Zoroastriens étaient parfois plus à l'aise sous les Arabes que sous leurs compatriotes islamisés. Les Taïrides, les Samanides, une nouvelle époque se met en place, toute la question étant de savoir si la brillance, la prospérité de cette époque est un héritage d'un état de choses qui avait précédé la conquête arabe en Asie centrale ou pas. C'est le cœur du livre de Frédéric Starr que j'ai analysé il y a deux cours et sur lequel je serai amené à revenir. Alors, donc, vous voyez une conquête qui a quand même pris qui a quand même pris beaucoup de temps, je le disais, hein, 30 ans pour prendre l'Iran, 180 ans pour conquérir, pour stabiliser la frontière en Asie centrale. Et alors, il faut donc bien être conscient, quand on a à l'esprit, bien avoir à l'esprit ce cadre chronologique pour évaluer la notion d'art et de culture préislamique en Asie centrale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que le sommet de la peinture sogdienne préislamique par tous ses thèmes, ce sommet se situe près de Boukhara, à Vararcha, dans les années 730, à Penjikent, dans les années 740. On est à la fin de l'époque oumayade. Non. La dernière floraison, c'est probablement en Oustroushana, peut-être même après 800. On est déjà bien engagé dans la période abbasside. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, pré-islamique ? Chronologiquement, c'est déjà l'époque islamique, et même très bien engagée. Et donc, on voit bien que certains concepts historiographiques qui ont été forgés pour l'Iran ne sont pas valables pour l'Asie centrale. Les historiens iraniens ont pris l'habitude depuis longtemps de parler des deux siècles de silence. Les deux siècles de silence, c'est l'interruption de la littérature iranienne entre la chute des Sassanides vers 650 et l'émergence des nouvelles littératures dans le nouveau persan qui s'écrit en caractère arabe à partir de 850. Entre les deux, deux siècles de silence. Eh bien, en Asie centrale, ça n'a jamais été silencieux. Alors, on peut se demander... Bon, les Arabes n'ont pas eu la tâche facile, mais enfin, malgré tout, ils ont gagné. Alors, pourquoi est-ce que des civilisations aussi brillantes, aussi prospères, probablement démographiquement aussi nombreuses que les Sogdiens et les Khorasmiens n'ont pas pu résister? Le grand historien Gibb, dont j'ai parlé avec son livre vraiment très très solide sur... très événementiel, très, très solide, sur l'histoire de la conquête islamique de l'Asie centrale, distingue deux phases, comme moi-même je l'ai fait. On a pratiquement la même chronologie. Lui, il dit, bon, jusque vers 670-681, une première phase qui paraît être quand même une expansion irrésistible, et puis une deuxième phase qui commence avec Qutaiba en 705. Et d'une phase à l'autre, malgré tout, les centres asiatiques ont eu un répit d'à peu près 30 ans. Et ils ont su se préparer. Les adversaires que les Arabes rencontrent à partir de 705, c'est plus tout à fait les mêmes que ceux qu'ils avaient rencontrés 30 ans avant. 30 ans avant, ils étaient rentrés comme dans du beurre chez des gens qui ne les attendaient absolument pas. 30 ans après, ils sont attendus. Donc, on voit par exemple un effort d'adaptation militaire entre la première phase de la conquête et la deuxième. L'archéologie le montre dans certains endroits. Ils ont considérablement réépaissi leurs murailles. On voit ça très bien à Penjikent. Les murailles anciennes, j'en avais parlé au cours il y a 2 ans, c'est des murs très minces avec plein de meurtrières partout qui ont un effet souvent peut-être plus psychologique que réel. C'est absolument pas adapté à la guerre avec des catapultes, des béliers, etc. C'est de la guerre avec des petites troupes de maraudeurs ou des petites troupes venues des principautés voisines. C'est pas de la guerre de siège. Vous voyez ici le premier rempart de Penjikent. Il fait 2 mètres d'épaisseur. Petit à petit, il est épaissi. Et en fait, dans la dernière phase de consolidation justement vers probablement début 8e siècle, quand les Arabes reviennent, à coups de murs, de doublage et de gros talus, le rempart fait 15 mètres. Alors, on est passé de 2 mètres à 15 mètres. Parce que c'est tout simplement, ils se sont adaptés aux machines de siège. Ils savent que les Arabes amènent avec eux une technologie de machines de siège qu'ils ont acquise en Iran. Les Sassanides connaissaient la guerre de siège. L'Asie centrale ne la connaissait pas ou l'avait oubliée depuis l'époque des Grecs. Alors, et ça, ces renforcements, ça n'a pas été possible partout, et notamment pas à Samarcande. Pourquoi ? Parce qu'à Samarcande, le rempart, qui en fait était plus ou moins celui qu'avaient construit les Grecs, était juché en haut d'une falaise de 20 mètres. Et donc, il n'y avait pas moyen d'épaissir. Vous allez voir dans un instant le récit de la prise de Samarcande. On voit très bien ce qui s'est passé. C'est que les Arabes ont réussi à faire tomber les murs de la ville par des tirs de catapultes. On ne mentionne pas des béliers. On mentionne des catapultes, ni des sapes. Des tirs de catapultes qui devaient être des tirs tendus depuis des hauteurs en face, et ils ont directement tapé dans le mur resté mince en haut de la falaise. Donc Samarcande n'était pas adapté à la guerre de siège. J'ai dit aussi, dans cette deuxième phase de la conquête, les principautés d'Asie centrale se sont efforcées, parfois avec un certain succès, à réactiver les contacts avec les Turcs. Le grand empire des Turcs avait disparu, mais il restait des confédérations tribales, des chefs tribaux. Mais ils n'ont toujours pas été capables de mettre sur pied des armées sogdiennes coordonnées. Alors, ce dont on nous parle pour la défense des royaumes sogdiens, ce sont des corps d'élite qu'on appelle les Chokars, qui sont des groupes de guerriers dévoués jusqu'à la mort à leur chef, très bien entraînés. Alors, ça a été beaucoup étudié, notamment par Étienne de la Vessière, qui voit l'une des sources du système des Mamelouks, qui émergera deux siècles plus tard dans le califat. Mais alors, ces petits corps de guerriers d'élite s'étaient adaptés pour les guerres entre chefs, pour les guerres entre principautés. Quand on a des chiffres sur des contingents de Chokar, ils étaient très redoutés, les Chinois disent qu'ils étaient invincibles, etc. Mais quand on a des chiffres, on nous parle de quelques centaines d'hommes, quelques milliers, mais ça ne suffisait pas face à des attaques massives de Bédouins. Quand on sait donc qu'à Merv, ils sont 50 000. Bon. Par ailleurs, les sources arabes mentionnent. Alors, à propos de l'intervention des Turcs, on lit de manière répétitive dans les sources arabes que l'armée turque est commandée par le Kagan, donc le grand Khan, le chef de l'Empire turc. En fait, à part depuis la fin du 7e siècle, il y a beaucoup de gens qui s'intitulent Kagan. Le titre s'est banalisé. Il y a toujours un chef impérial, un Kagan en titre, quelque part du côté du Kirghizistan ou de la Mongolie actuelle. Mais quand un gouverneur arabe se vante d'avoir défait en bataille ou même tué le Kagan, il se vante parce qu'en réalité, il a affronté un chef tribal qui porte ce titre. On a justement sur cette importance de l'élément de donc on voit bien que dans cette seconde phase de la conquête, bon, les Sogdiens ont compris que leur corps d'élite ne suffisait pas et que la seule masse humaine capable d'affronter les guerriers arabes, c'était la levée tribale chez les Turcs. Et les Arabes avaient compris cette situation. Alors, on a un dialogue très intéressant en 730, au moment d'une. Donc, on planifie une attaque sur Samarcande, un commandant déclare au gouverneur: aucune armée arabe ne doit franchir la Moudaria si elle n'a pas 50 000 hommes. Le gouverneur en a 28 000. J'y vais quand même. Il y va quand même. Ils sont battus. C'est ce qu'on a. Donc la bataille du défilé que j'ai été amené à évoquer, qui a eu un très grand retentissement. Et au dernier moment, à la rescousse, arrive la garnison arabe de Samarcande. 12 000 hommes. 11 000 sont tués. Et alors, ils sont tués parce que les Turcs qui arrivent ont une tactique de chasseurs. Ils ont tout simplement... ça s'est passé dans le maquis de la montagne, le col qui menait à Samarcande. Ils ont mis le feu. Et on a des alors là, chez Tabari, on a des récits extrêmement détaillés de des pauvres commandants arabes qui étouffent dans leurs armures comme des homards. On explique donc au général arabe inconscient qui a voulu mener cette bataille, on dit « Les Turcs ne sont pas comme les autres. Ils n'affrontent pas en ligne de bataille ni n'avancent lentement pour prendre position. Si tu affrontes le Kagan, il mettra le feu au taillis et vous serez tués par le feu et la fumée. » Alors, en revanche, du côté arabe, une arme qui est mise en jeu et de plus en plus, et surtout lors de la deuxième phase de la conquête à partir de Koutaïba, c'est la terreur. C'est la terreur. Au début, les Arabes ne sèment pas tellement la terreur. Ils sont perçus comme des gens sortis d'on ne sait où. En fait, quand on voit la manière dont ils sont décrits, par exemple, les lettres que le roi de Samarcande envoie à l'empereur de Chine en appel au secours, on parle des brigands arabes. Ils sont probablement perçus comme tels. Ils ne sont pas perçus comme les agents d'une puissance impériale en train de se construire. Ils sont vraiment perçus comme des brigands qui font des razzias. Au début, ça ne panique pas tellement parce que des maraudeurs de la steppe qui faisaient des incursions, on en avait toujours eu. La plupart des conquérants dits nomades de l'Asie centrale, en réalité, assez souvent, ce sont des gens qui étaient déjà là sur place comme troupes mercenaires ou des gens que des factions avaient appelés à l'aide contre d'autres. Et ça, c'est une longue histoire, parce que c'est exactement comme ça que s'est passée la conquête russe en 1868. Une partie, à Tashkent comme à Samarcande, une partie des commandants de la ville ont ouvert les portes aux Russes contre des rivaux. À Samarcande, c'est les religieux qui ont ouvert les portes de la ville. On pensait que, bon, voilà, c'était une nuisance qui allait finir par disparaître. Alors, pour s'imposer, les Arabes instaurent des massacres de masse. Alors, là aussi, c'est probablement pas une nouveauté. On pense qu'au IVe siècle, quand les Huns sont arrivés, on soupçonne qu'il y a eu de grands massacres. En 640, pas très longtemps avant la conquête, on sait que toute la population de Samarcande est capturée et raflée en esclavage par un chef turc. Mais c'est quand même attesté de manière très systématique à partir de 705 en Asie centrale. Alors que la conquête de l'Iran s'est faite largement sans massacre. En fait, on n'en connaît qu'un. C'est à Istar, près de Persépolis, la grande ville religieuse, qui s'est révoltée sous le calife Ali. Il y aurait eu 40 000 morts. Alors on se demande, même si ce n'est pas à cette occasion, comme c'est la grande ville sainte du zoroastrisme, la grande cité sacerdotale, on se demande si ce n'est pas à cette occasion-là qu'une partie de la littérature zoroastrienne aurait péri. C'est le seul massacre dont on entend parler. En Asie centrale, des massacres, il y en a l'un après l'autre, pendant plusieurs décennies. Alors, je vais commenter quelques textes. Le premier massacre dont, le premier massacre dont il va être question, ce n'est pas vraiment un massacre à proprement parler, c'est plutôt une entreprise d'anéantissement culturel, une exception, en fait, une exception. C'est au Khorezm, en 712. Toujours notre ami Koutaïba, et ça, c'est raconté par Al-Biruni, trois siècles plus tard, le grand savant du Khorezm, qui explique pourquoi il a eu du mal, il n'a pas réussi à écrire l'histoire de son pays. Koutaïba éteignit et ruina de toutes les manières possibles tous ceux qui écrivaient et lisaient l'écriture khorasmienne, ceux qui savaient l'histoire du pays et qui étaient versés dans les sciences. En conséquence, ces choses sont enveloppées d'une telle obscurité qu'il est impossible d'obtenir une connaissance précise de l'histoire du pays depuis l'arrivée de l'islam, sans même parler des temps pré-islamiques. Effectivement, la chronologie de Koutaïba sur les rois du Khorezm avant l'islam, elle est extrêmement, elle est presque entièrement fautive. Alors, on sait que l'écriture khorasmienne n'a pas disparu, elle est encore attestée pendant plusieurs décennies par des inscriptions funéraires. La langue n'a pas disparu, c'est même la dernière grande langue d'Asie centrale qui s'est éteinte, elle ne s'est éteinte qu'au XVe siècle. Mais il y a eu là une entreprise d'anéantissement culturel. Les intellectuels, les savants ont été massacrés. Alors, j'en viens maintenant, on va s'arrêter maintenant assez en détail, et ça continuera au cours suivant, sur les textes concernant la prise de Samarcande. Alors, évidemment, j'ai toujours tendance à revenir à Samarcande. En dehors de l'affection particulière que je porte à cette ville, il y a tout de même le fait que on a un dossier de textes extrêmement riche et qu'on a l'archéologie qui est là pour nous confirmer beaucoup de choses. Le dossier de textes, il est très détaillé, très vivant, très divers, des textes arabes, beaucoup, évidemment, mais aussi des textes chinois, puisqu'on a un récit de la prise de Samarcande envoyé par le roi de Samarcande à l'empereur de Chine pour lui demander du secours. Si jamais, même si j'avais le talent littéraire d'un Amin Malouf, je ne me lancerais pas dans l'écriture d'un roman sur la conquête de Samarcande, parce que le roman, c'est pas la peine de l'écrire, on l'a déjà. Ce sont les sources. Voilà. Alors, prenons dans l'ordre. Je vais vous parler de cet historien, Ibn Hafam, qui a des sources communes avec Tabari, mais qui a l'avantage de donner un récit un peu plus fluide. Et voilà ce qu'il raconte sur... c'est notre ami Koutaïba, encore lui, qui, en 712, venant de conquérir le Khorezm et ayant conquis Boukhara trois ans avant, vient attaquer Samarcande. Tout le monde, petits et grands, montra tant de zèle à participer à cette expédition contre Samarcande depuis toutes les villes du Khorasan que les gens du commun, prenant en main bâtons et couteaux, se mirent en route et que le nombre de ce genre d'individus dépassa ce que l'on avait vu à toute époque. Donc, aucune solidarité avec Samarcande. Les populations viennent à la curée. Alors là, Tabari nous donne des détails plus techniques. Koutaïba installa des catapultes contre les Sogdiens et fit tirer. Je viens de vous expliquer pourquoi, si on faisait des tirs tendus, le mur de Samarcande, en haut de la falaise, pouvait être vulnérable aux catapultes. Il était bien conseillé par ceux des Boukhariotes et des Khorasmiens qui étaient avec lui. Rouliak, donc le roi de Samarcande, envoya dire à Koutaïba: « Tu es en train de me combattre avec des non-arabes, à la Jam. Mes frères et ma famille, envoie-moi donc des arabes. » Koutaïba l'a très, très mal pris. Il a envoyé l'élite de l'élite de son armée. Et c'était la plus profonde insulte qu'il ait pu recevoir. Chose extraordinaire, voilà c'est le récit côté arabe. Et voilà le récit côté sogdien. Là, c'est Rouliak, qui nous raconte, le roi de Samarcande, qui nous raconte sa défaite. 719, en message reçu à la cour de Chine. Le même mois, le roi de Kang, dans sa Samarcande, Gouriek, adressait une requête à l'empereur en ces termes. « Votre sujet, Gouriek dit, votre sujet est l'esclave semblable aux herbes et au sol que foulent les pieds de vos chevaux sur un espace d'un million de lits soumis au saint empereur qui, par la grâce du ciel, commande à tout l'univers. » Ça, c'est pas lui qui a dû écrire ça. Hein. C'est la chancellerie chinoise quand ils ont transcrit la lettre. Les membres de ma famille, ainsi que les divers royaumes Hu, Sogdia, depuis longtemps et jusqu'à maintenant, ont été sincèrement dévoués à votre grand empire. Jamais ils ne se sont révoltés ni n'ont causé du dommage à votre grand empire. Nous avons été des pays qui avons agi en vue d'être utiles à votre grand empire. On est vraiment dans One Road, One Belt. Hein. Voici maintenant 35 années que nous bataillons sans cesse contre les brillants Tache, c'est arabe. Chaque année, nous avons mis en campagne de grandes armées de soldats et de cavaliers, sans avoir eu le bonheur que la bonté impériale envoie des soldats à notre secours. Il y a de cela 6 ans, donc on est en 712, le général en chef des Arabes, l'émir Koutaïba, à la tête d'une nombreuse armée, est venu ici. Il a combattu contre nous et nous avons fait essuyer une grande défaite à nos ennemis. Mais beaucoup de nos soldats aussi étaient morts ou avaient été blessés. Comme l'infanterie et la cavalerie des Arabes étaient extrêmement nombreuses et que nos forces ne pouvaient tenir tête, je suis rentré dans mes remparts pour m'y fortifier. Alors les Arabes ont assiégé la ville. Ils ont placé contre les murs 300 balistes, 300 catapultes. En 3 endroits, ils ont creusé de grandes tranchées. Ils voulaient détruire notre ville et notre royaume. Je demande humblement que la bonté impériale, étant informée, envoie ici une certaine quantité de soldats chinois pour me secourir dans les difficultés. Quant à ces Arabes, ils ne doivent être puissants que pendant un total de 100 années. C'est cette année qu'est épuisé le total de ces années. Calculé, on est 100 ans après l'Égir. Et il y avait, à ce moment-là, on le sait, pas seulement à Samarcande, mais aussi dans l'Empire byzantin, des prophéties qui circulaient selon lesquelles les Arabes, la gloire des Arabes s'arrêterait au bout de 100 ans. Ce qui correspond à ces années 720 qui commencent à devenir difficiles pour les Arabes sur plusieurs fronts, Asie centrale, mais aussi contre Byzance, qui vraiment commence des contre-offensives, et chez nous, à Poitiers. Si des soldats chinois viennent ici, moi et les miens, nous réussirons certainement à détruire les Arabes. Maintenant, j'offre au présent avec respect un excellent cheval, un chameau persan, 2 mulets. Pas grand-chose, quand même. Si la bonté impériale me fait la faveur de m'accorder des cadeaux, je demande qu'on les remette à mon ambassadeur, qui me les apportera, et j'espère qu'on ne le pillera pas. Il y avait dû y avoir quelques incidents. Bien. Alors, chose encore plus extraordinaire, on a le récit du siège de Samarcande par les Arabes, par le roi de Samarcande, et on l'a en peinture. Dans ces peintures qu'a fait exécuter le roi de Penjikent. Voilà des gens qui manient une catapulte. C'est évidemment. Ces peintures ont été exécutées probablement en 721, quand le roi de Penjikent, Dewashtich, s'est proclamé roi de Samarcande. Et elles ont été trouvées dans un état très fragmentaire dans le palais, volontairement saccagé au moment de l'occupation de la ville par les Arabes en 722. Ce sont les seules peintures de Penjikent qui ont été volontairement saccagées à cette date. Clairement, c'est parce qu'elles comportaient un message politique qui était inacceptable pour les Arabes. Et on a donc des fragments, et on comprend que quelque part, ils remontaient à la prise de Samarcande. Ce qui est curieux, c'est le type physique de ces gens qui tirent sur les cordes de la catapulte. Ce ne sont pas des Sogdiens, ce ne sont pas des Arabes. Ce sont des gens qui ont des traits assez grossiers et dont certains sont roux. Marchak et Bélénissi, qui ont publié cette peinture, ont pensé que peut-être c'était des techniciens venus d'Occident, de l'Empire byzantin. Moi, je penserais plutôt que c'est des gens du Khorezm. Rappelez-vous donc ce qui est dit, voilà, ce qui est dit par Tabari, il était bien conseillé par ceux des Boukhariotes et des Khorasmiens qui étaient avec lui. Et le renseignement vient juste après l'histoire des catapultes. Alors, pourquoi est-ce que les gens de Boukhara et du Khorezm auraient su manier des catapultes et que les gens de Samarcande ne le savaient pas. Peut-être parce que Boukhara et le Khorezm ont encaissé la conquête arabe beaucoup plus tôt et qu'ils avaient eu le temps de se mettre à ces techniques et qu'à Samarcande, on n'avait pas eu le temps. Je vais vous lire les termes de l'armistice, alors tels qu'ils sont. Tabari en donne le résumé et Ibn Hatham al-Kufi a visiblement eu accès au texte entier. Et donc, on peut considérer ça comme un document d'archive. Voilà le texte de l'armistice conclu par Rouriek avec Koutaïba. Voici les termes de la paix conclue entre l'émir Koutaïba et Muslim de la tribu Bahili avec l'Irshid, donc le roi Rouriek, Afshin, titre local de la Sogdiane. Au nom d'Allah, du prophète Muhammad, du commandeur des croyants, Al-Walid, le calife Oumayyad de l'époque. La paix a été conclue concernant Samarcande, ses districts Kesh et Nassaf, donc des principautés plus au sud que Samarcande revendiquait, je vais être amené à revenir là-dessus, ses terres, ses emblavures et toutes ses bornes, moyennant 2 millions de dirhams immédiatement. Un dirham, ça fait 4 grammes, c'est de l'argent monnayé, 4 grammes. Donc ça c'est le tribut, c'est ce qu'on paie tout de suite. 200 000 dirhams annuellement, donc c'est le tribut annuel. 3 000 esclaves, parmi lesquels il n'y aura ni enfants ni vieillards. Mais bon, ils ne disent pas qu'il n'y aura que des hommes, mais bien les femmes. Et de ce qui, de cette terre, sera versé pour la jizya, donc l'impôt des infidèles sous forme d'esclaves, sera compté pour 200 dirhams par tête. Un esclave vaut 200 dirhams. Sous forme de grands habits de brocart, d'iba, soie mêlée d'or, 100 dirhams le vêtement. Sous forme de petits habits, 60 dirhams le vêtement. Sous forme de soie, c'est-à-dire les rouleaux, 28 dirhams le rouleau. Et c'est le rouleau, c'est l'unité chinoise du rouleau de soie, c'est 12 mètres sur 55 cm. Sous forme d'or pur, chaque miskal, 4 grammes, pour 20 dirhams, et sous forme d'argent pur, miskal pour miskal. Et Koutaïba ibn Muslim s'engage à ne rien entreprendre contre l'Irshid Rouriek, de ne pas le trahir, et de lui, il n'exigera rien en sus de ce qui est consigné dans le présent accord. Et si quelque ennemi se dresse contre Rouriek, Koutaïba s'engage à lui venir en aide et à le soutenir contre cet ennemi. Et Koutaïba fait ce serment. En vérité, toi, l'Irshid Rouriek, je te fais roi de Samarcande, de ses terres, de ses bornes et de Kesh et Nassaf, et de leurs villes et forteresses, et je te confie leur gouvernement, et sur elles, je reconnais l'empreinte de ton anneau, donc de ton sceau. Et personne ne te fera opposition. Et en vérité, après toi, la souveraineté appartiendra à ton fils pour tout le temps que durera mon gouvernement du Khorasan. Les témoins, tous des Arabes, Koutaïba déclara, j'ai apposé mon sceau sur cet accord et aussi les témoins, et ont remis cet accord à Rouriek. Beaucoup de choses à dire sur ce texte que je vais dire la semaine prochaine. Et puis, d'autres détails sur l'épisode de la prise de Samarcande. J'attire tout de suite alors, sur la question donc, de la... de la nature et du montant du tribut versé, en réalité, ça n'était pas exorbitant. Sur les conditions qu'obtient Rouriek. En réalité, des conditions favorables, puisque, à la faveur de son accord avec Koutaïba, il accomplit un véritable coup d'État auprès de ses compatriotes. Il obtient la reconnaissance de la souveraineté sur les principautés de Kesh et Nassaf, qui étaient en fait des conquêtes pas stables, et il obtient le droit héréditaire. Et en fait, je vous l'ai dit dans les cours précédents, ça n'était pas l'usage des successions en Sogdiane, c'est l'Assemblée du peuple qui décidait qui est nommé. Et là, il obtient de devenir souverain héréditaire. Voilà, j'en ai terminé pour cette fois, et donc je vous dis à la semaine prochaine.